Bonjour chers auditeurs, bonjour, merci d'être là ce mercredi 12 août. C'est un mercredi un peu creux, en tous les cas à Paris. On sent le vide. On a retrouvé le Paris des mois d'août du XXe siècle, qui était vraiment vide. Alors ça s'était un peu estompé, mais la chaleur a suffi à retrouver les bonnes habitudes. Tout le monde a fui, et donc c'est un délice, à condition d'être comme... sur Radio Courtoisie, dans un air un peu frais, et surtout d'y recevoir de bons amis, si l'on peut dire, et un ami qui est avant tout un maître, nous fait l'honneur d'être présent. Alors là, c'est inattendu, c'est un petit cadeau du ciel. Jean-Christian Petit-Fils est parmi nous en ce 12 août pour nous parler d'un livre de surcroît, Honore un signe, qui n'est pas encore paru, et je l'avoue à ma courte honte, mais je ne peux pas faire autrement, je ne l'ai pas lu. Nous allons en parler quand même, ce n'est pas si grave. Jean-Christian Petit-Fils, vous allez marquer la rentrée de façon tonitruante, je pense, avec un gros livre qui compte près de 900 pages. Oui. J'ai vu qu'on en a,
exactement.
On a de la matière, consacré enfin à la Révolution française. Je dois dire, Jean-Christian Petit-Fils, que j'attendais que vous fassiez ce livre, parce que tout y mène. Michelet disait que toute l'histoire de France coule vers la Révolution française. En tous les cas, l'histoire des Bourbons, qui est un de vos grands domaines de prédilection, ce n'est pas le seul d'ailleurs. Je précise que votre vie et votre œuvre est très diverse. On peut se référer à une conversation que nous eûmes sur TV Liberté il y a 3 ans, dans laquelle vous racontez un peu votre vie et le fil de votre œuvre. Je crois que vous avez, j'en suis même sûr, consacré des biographies qui font autorité pour chacun des rois Bourbons, depuis Henri IV jusqu'à Louis XVI. Il fallait en venir à la Révolution française. Enfin, ce livre est là. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. J'ai quelques nuits blanches en perspective. Rien n'est tel, surtout dans les soirs d'été. J'invite nos auditeurs à faire la même chose, que de ne rien prendre le matin. Ou alors se lever très tôt, profiter de la fraîcheur avec un livre, et là vous aurez un gros livre à lire.
Sans doute. J'y pensais depuis très longtemps.
Plein de révélations. Oui, moi aussi.
D'abord parce que...
moi aussi pour vous, je savais que vous y viendriez.
Bien sûr, mais bon, je m'étais promis de le faire à l'issue de ce cycle sur les Bourbons que j'ai fait dans le désordre. Hein, je commence par Louis XIV, Louis XIII, Louis XVI, Louis XV,
vous avez toute la période...
d'Henri IV à Louis XVI.
Du XVIe jusqu'au XIXe.
J'ai commis une thèse de doctorat d'État de sciences politiques sur un personnage de la Révolution. Donc déjà, c'était quelque chose qui me travaillait depuis très très longtemps. Et puis, la fréquentation, évidemment, du malheureux Louis XVI m'a permis de creuser davantage les débuts de la Révolution jusqu'à son exécution, et de comprendre un certain nombre de choses. Et donc, ce livre reprend un peu toutes mes réflexions sur la destruction du pouvoir absolu, la construction d'un nouvel ordre politique et social. Et voilà, donc
c'est... Il y a une continuité, parce que même dans votre Henri IV, vous commencez à envisager, à apercevoir au loin la Révolution inscrite dans le début de centralisation qu'a voulu Henri IV, et celui, enfin, il y a un début de jacobinisme. Il y a un pré-jacobinisme royal chez les Bourbons, c'est très net. Alors voilà, un départ de la conversation qui sera agrémenté par les questions que veulent absolument vous poser, parce que c'est un honneur que d'assister à cette émission, mon cher Jean-Christian Petit-Fils. Gilles Brochard,
bonjour.
Notre cher Gilles Brochard est avec nous, parce que c'est un haussien invétéré, Gilles Brochard. On se voit beaucoup plus au mois d'août que dans n'importe quelle période.
C'est vrai, oui, c'est un moment un petit peu creux, mais j'avoue que venir assister à ce type d'émission, c'est un enchantement, parce que Jean-Christian Petit-Fils a non seulement écrit des beaux livres, mais j'aime bien sa plume alerte.
Sans une belle plume, le succès n'aurait pas été tel. Il est considérable, vous vendez des livres par centaines de milliers, vous avez une œuvre connue dans la terre entière, à travers la terre entière. Gilles, je crois que vous avez connu aussi, sinon le père, mais certaines œuvres du père Jean-Christian.
Oui, bien sûr. Ça me touche d'autant plus que son père a écrit un très beau Verlaine, dans lequel il parle de mon arrière-grand-père, qui était le médecin de Verlaine, donc il en parle pas mal dans ce livre. Et c'est un livre intéressant parce qu'il n'y a pas tellement de biographies sur Paul Verlaine, il y a eu plutôt des essais, notamment il y a eu des essais sur la fin de vie de Verlaine qui est assez exemplaire, Mais et puis il a écrit un Rimbaud aussi que bien j'avais lu, sûr, etc., etc. Donc je suis arrivé par cette porte-là à vos livres. Bien sûr. Voilà.
Alors, mon cher Gilles, je n'ai pas besoin de vous présenter, tout Radio Courtoisie vous connaît, non, et notamment pour vos revues de presse du matin, mais en ce moment vous faites relâche.
Oui, on va reprendre le 24 août, et alors il y a un petit changement, normalement je faisais ma revue de presse à 9h30, ça a été avancé de 4-5 minutes, donc ça sera vers 9h27-28, et donc je m'attacherai...
Le 24 août.
24 août, je m'attacherai à parler non seulement de l'actualité, mais je parle beaucoup de magazines. On a sous les yeux le Figaro Histoire, qui est un très très beau numéro d'ailleurs, dans lequel Jean-Christophe Petit-Fils a donné un très bon entretien.
On peut s'appuyer sur ce long entretien.
Exactement,
qui en dit
on en parlera. Et c'est un numéro sur la guerre d'Espagne, c'est un très joli thème, un thème passionnant, et jamais, on n'a jamais fini de parler de la guerre d'Espagne. Donc j'essaye de parler de revues, de magazines, j'ai un peu carte blanche. Alors évidemment, il y a l'actualité, quand l'actualité est très forte. Cette année, ça va être particulier, puisque c'est une année électorale, donc il y aura beaucoup de choses à dire, et voilà, bah avec l'équipe autour de Richard de Seize, nous commencerons le 24 août, moi j'y suis du lundi au jeudi.
Et alors nous avons la joie d'être accompagnés un peu au pied levé de quelqu'un que les auditeurs Radio Courtoisie connaissent, parce qu'il a déjà sévi avec Maud Koeffler, je crois que c'était une émission musicale.
Tout à fait,
Julien,
oui, bonjour Tellier. Paul-Marie.
Bonjour Julien Tellier. Vous êtes, je vous ai connu, vous étiez un élève en histoire du professeur Dard, Olivier Dard.
Tout à fait, oui. Et en histoire politique contemporaine à la Sorbonne.
Voilà, et vous avez officié sur Boulevard Voltaire un certain temps aussi. Voilà, vous êtes un journaliste en herbe. Et alors hier, pour ne rien cacher à nos auditeurs, que nous célébrions chez moi l'anniversaire d'un de nos amis communs, dont je dis le nom bien qu'il est explosif, Gabriel Matzneff, ouais. Nous célébrions son 90e anniversaire. Julien Tellier était là, et je lui ai dit, nous avons parlé de vous, Jean-Christophe Petit-Fils, et de votre livre que tout le monde attend, c'est déjà un événement. Et Julien m'a dit, ah, ça m'intéresse beaucoup, le livre sur la Révolution, je l'attends avec impatience. Je lui ai dit, qu'à cela ne tienne, venez en parler demain. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation, Julien Tellier. Au pied levé. Alors, je commençais à dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la polémique, mais peut-être on peut poursuivre là-dessus. Il y a déjà eu un jacobinisme, enfin une centralisation très marquée avec les Bourbons, enfin depuis le XVIe siècle du pouvoir central, et vous vous en félicitiez d'ailleurs.
Oui, alors ça, c'est
au c'était fond, à mettre au crédit d'Henri IV.
L'absolutisme, dans un sens de centralisation. Hein. Il y a au fond l'absolutisme théorique, qui fait que la monarchie a toujours été une monarchie absolue, c'est-à-dire sans lien, ne dépendant que de Dieu. Hein. Le roi ne tient son épée que de Dieu, disait Louis XIV. Ça, c'est le principe absolutiste. Mais en réalité, la société française, compte tenu de sa structure, de sa composition, qui est une société de corps, d'ordre, un enchevêtrement de privilèges, c'est-à-dire de lois particulières, faisait que le pouvoir royal était très limité. Et nous voyons à partir de la fin du XVIe siècle, on peut dire d'ailleurs la date de naissance, c'est l'édit de Nantes, nous voyons apparaître dans la pratique une montée d'un pouvoir absolu. Là, qui veut s'affirmer dans la société, qui cherche à centraliser, à détruire les coutumes, les corporations.
Absolument principal, on peut dire pouvoir principal, c'est le principe. Il n'est pas totalement absolu, c'est un vieux débat.
Il n'est pas absolu dans le sens où il est limité par quantité, par le décalogue, par la loi chrétienne, par...
Les lois du royaume.
Oui, jamais vous verrez, par exemple, au XVIIe siècle, et Dieu sait si j'ai labouré les archives, un ordre du roi ou même de ses ministres pour exécuter quelqu'un sommairement. Jamais. Il n'y a pas de barbouze au XVIIe, contrairement à ce qu'on dit.
Contrairement à la République.
Il y avait la... Ben oui, enfin une certaine République.
Mais... Aucune n'y échappe. Mais enfin, passons à l'absolutisme.
Mais, donc il y avait des principes, des lettres de cachet. Donc il y avait le roi est maître de toute justice. Mmh. Et donc pour rendre la justice, il y a deux manières. Une justice déléguée, qu'il va déléguer à ses conseillers, que sont les juges, que sont les membres du Parlement, qui achètent une charge, bien sûr, qui passent un petit examen, et puis là, il y a évidemment beaucoup de copinage, hein, mais ils rendent la justice au nom du roi. Ce sont les conseillers du roi. Et puis, vous avez une justice retenue.
Voilà.
Et dans la justice retenue, eh bien, vous avez une procédure qui est la procédure des lettres de cachet, contresignées par un secrétaire d'État, par lesquelles on
donc
peut...
Donc le roi ne suffit pas là non plus.
Le roi ne suffit pas. Et là, le roi ne peut pas donner un ordre d'exécution sommaire de quelqu'un. Il peut simplement l'enfermer, l'embastiller ou le conduire dans une autre prison d'État pour sa vie entière. Alors, c'est un système injuste, fortement, évidemment, puisqu'il y a eu des abus, les ministres en ont abusé de ces lettres de cachet. Et puis, il y a des individus qui se sont trouvés enfermés, sans même savoir pourquoi, posant des questions. Le geôlier lui-même ne savait pas. Quelques années après, les ministres écrivent en disant « Quel est cet individu qui se plaint ?» etc. Donc, on a là...
Il se plaint d'être enfermé.
Et qui ne sait pas, qui ne sait toujours pas pourquoi il est enfermé. Et certains ont été enfermés. Pendant des décennies entières. Donc voilà, donc, cette souveraineté monarchique, elle est limitée. Et il y a eu une tentative, je dis bien une tentative de centralisation qui n'a pas véritablement fonctionné. C'est ça, pour moi, qui va déclencher la révolution. Pourquoi la révolution...
C'est pas parce que la machine de la centralisation est lancée. C'est parce qu'elle est lancée, mais imparfaite.
C'est ce que dit Tocqueville. Tocqueville dit exactement le contraire. Tocqueville dit la monarchie française est morte d'un excès de centralisation.
Oui, c'est ce que je pensais, moi.
Mais Tocqueville, il est prisonnier un peu des concepts aristocratiques.
Oui, puis c'est simplé, oui.
Non, c'est un immense historien, sociologue, et que j'admire beaucoup. Mais là, dans son livre sur l'Ancien Régime et la Révolution, il pense qu'il y a une continuité de l'État monarchique. Après l'État monarchique jacobin, entre guillemets, il y a un État jacobin révolutionnaire. Et c'est pas vrai. Il y a un effondrement à partir de la mort de Louis XIV, de tentatives de centralisation. Nous voyons le roi en échec, Louis XV en échec constant devant les parlements. Louis XVI, qui a malheureusement rappelé les parlements sous l'influence d'un mauvais conseiller qui était le comte de Maurepas, mais qui était réformateur, lui, eh bien, se heurte aussi à ce mur, à cette société bloquée, comme aurait dit Chaban-Delmas. Et vraiment, c'est une société bloquée. Donc, il y a, au cours du XVIIIe, il y a un effondrement de la puissance monarchique.
Autrement dit, cette révolution, elle n'était pas inscrite dans les étoiles, elle était évitable si la monarchie était parvenue à se réformer. En mettant au pas les parlements pour être finalement plus absolu, en tous les cas.
Absolument. Il fallait qu'elle se débarrasse de la vieille société de corps et d'ordre héritée du Moyen-Âge, du système féodal, du servage. Il y avait encore du servage. Le roi avait aboli le servage dans ses états, dans ses domaines. Mais il y avait encore... Le roi, c'est sous Louis XVI, il y a l'abolition du servage.
Vous dites qu'il y a 100 000 serfs en Bourgogne.
Et il y avait 100 000 serfs en Bourgogne.
Ouais, c'est beaucoup.
Voilà, 100 000 serfs en Bourgogne en 1789. Donc, le servage, le système féodal qui survivait, au moins dans sa pratique foncière, le système inégalitaire, tout cela, la monarchie française voulait... par sa volonté centralisatrice, modernisatrice, abolir tout ça. Mais elle n'y est pas parvenue. Donc il y a eu toute une tradition de ce qu'on appelle la monarchie administrative, avec Colbert, Louvois, Vauban, ultérieurement
Turgot, Calonne,
l'abbé Dubois aussi. Voilà. Donc cette centralisation, elle se heurte au XVIIIe à une immense réaction aristocratique contre le pouvoir royal, contre l'absolutisme Louis XIVien, prétendument despotique, et c'est lui qui va en fait conduire à la révolution.
Aristocratique et bourgeois, parce que Voltaire, c'est pas l'aristocratie.
Non, mais ceux qui lancent la révolution, ce sont les nobles. Hein,
les
patriciens ont commencé la révolution, dit Chateaubriand. Et ça, c'est très juste. La révolution commence en réalité par une contre-révolution.
Alors,
par une opposition.
Vous la faites débuter en 1786.
Oui.
J'ai envie de vous poser une question plus large. De quoi parlons-nous ? La Révolution française, elle est coupée en rondelles, certains la limitent à quelques années, vous avez tendance à l'étendre, et je crois que c'est plutôt logique. Vous la faites commencer, vous allez nous dire pourquoi en 1786, et pas 89, et puis vous l'achevez assez tard, c'est-à-dire avec le consulat. Et j'ai même... Et c'est vous qui dites, je crois, moi je savais dans cet entretien pour Le Figaro Histoire, que le calendrier révolutionnaire a perduré jusqu'en 1805.
Oui. Bon,
ce qui fait que l'atmosphère révolutionnaire, tout de même, s'est perpétuée. Je me demande même si on ne peut pas achever cette séquence en respectant, au fond, la scansion banale et naturelle de la génération, c'est-à-dire de 25-30 ans, c'est ça une génération en histoire, à Waterloo. Est-ce qu'on ne peut pas inclure l'empereur qui est d'abord un général Bonaparte très révolutionnaire, dans la séquence 1786 jusqu'à Waterloo,
mais en pleine. Oui et non. Et on pourrait même aller plus loin.
Beaucoup,
on pourrait aller beaucoup plus loin.
Ça serait peut-être un autre livre pour vous, mon cher.
On verra peut-être. Mais en tout cas, les historiens butent sur la date de clôture de la Révolution.
Oui. Hein.
Pour les historiens, certains historiens comme Michelet, comme Jaurès, comme Mathiez, hein, Mathiez comme on dit, Éric Heyer aujourd'hui, hier.
Mathiez qui est d'inspiration marxiste.
Ouais, bah, oui, qui était communiste, après qui est devenu socialiste, mais très marqué par le marxisme-léninisme. Eux, ça s'arrête en Neuf Thermidor, c'est la chute de Robespierre. Bon. Donc, c'est un peu court. Hein, bon. Ensuite, la majorité quand même des historiens considèrent que la Révolution se termine en 1799, donc avec le 18 Brumaire, puis qu'à partir de là, on commence autre chose, le consulat. Moi, je pense que il faut aller au moins au-delà de 99, aller dans le consulat, considérer que le consulat, bien sûr, c'est un régime autoritaire, policier, qui s'instaure. Il n'y a plus cet appel à la démocratie que, entre guillemets, là aussi, on parlera de la démocratie sous la Révolution.
Là, vous avez une formule magnifique. La Révolution n'a pas inventé la démocratie, elle a inventé le totalitarisme.
Démocratie.
On garde ça pour plus tard. C'est une petite friandise.
Mais enfin, en novembre 1800, par exemple, au Conseil d'État, Bonaparte dit « Nous avons fini le roman de la Révolution, il faut commencer l'histoire, ne voir que ce qu'il y a de réel et de possible dans l'application des principes, et non ce qu'il y a de spéculatif et d'hypothétique. » Donc, il faut mettre un terme à cette Révolution. Et comment on va le faire? Comment va-t-il le faire? Par ce qu'il appelle des blocs de granit. C'est-à-dire, il va consolider cette société, donc il va consolider la Révolution. Et évidemment, ces blocs de granit, la masse de granit, c'est en premier lieu, c'est le code civil. Le code civil 1804.
Inspiré d'ailleurs de plusieurs décrets de Louis XVI.
Oui, inspiré de toute la tradition des jurisconsultes de l'Ancien Régime, etc.
De l'arsenal juridique précédent.
Bien entendu. Oui. Enfin, donc, la création du Conseil d'État, la création de la Banque de France, la signature du Concordat, la création des lycées, la création de la Légion d'honneur, tout ça, ce sont des masses de granit qui vont figer la Révolution. Si la Révolution s'était terminée en 1798-99, il y aurait peut-être eu une contre-révolution. Vous savez, sous le directoire...
Ou
Thermidor, bien sûr. Donc, il y aurait eu une réaction...
Les élections ont souvent donné des majorités aux royalistes.
Aux royalistes, voilà. Et après, il y a eu des coups d'État qui ont fait qu'on a empêché... Voilà. Donc,
si le pape s'exprime, il est plutôt du côté du
roi. Bonaparte empêche le retour à l'Ancien Régime. Bon, et donc, vous savez très bien que la restauration, ça sera quand même l'acceptation du code civil, de la société civile, et finalement d'un certain nombre d'acquis de la Révolution. Alors, pour finir sur ces dates, donc une majorité, Edgar Quinet, François Furet, Mona Ozouf, Jean-Clément Martin, eux, donc, optent pour le 1799. Mais Furet dit, par exemple... qu'on pourrait, si l'on veut, poursuivre le mouvement révolutionnaire et y voir un achèvement dans les lois républicaines de 1880-86, c'est-à-dire...
Ça va loin, pour le coup.
Donc ça vous dépasse, ça dépasse votre voie de vue.
Oui, moi j'aurais voulu qu'on s'arrête
à Waterloo.
Vous
vous arrêtez à 1815, ça va au-delà, vous voyez. Et c'est pas totalement faux, dans la mesure où la Révolution n'a pas du tout instauré la démocratie, elle a instauré le suffrage, elle a instauré la représentation nationale, ça c'est capital, mais la libre exercice de tous les métiers, l'égalité devant l'impôt, mais elle n'a pas instauré un système pluraliste de démocratie avec de statut de minorité, respect de la minorité. Oui. On était toujours dans la lutte, dans l'invective, dans la surenchère et dans la dénonciation de l'ennemi, de l'adversaire comme un ennemi.
Bon, voilà pour la fin. Je crois que je ne suis pas prêt de vous convaincre d'inclure la période qui me semble très révolutionnaire, malgré tout, napoléonienne, dans la grande séquence révolutionnaire. Il y participe quand même.
Bah, c'est une monarchie quand même. On revient à la monarchie, donc c'est pour ça que c'est autre chose.
Bon, c'est pas du tout la monarchie.
Napoléon ?
Vous appelez dictature une monarchie ? Enfin, vous appelez monarchie une dictature ?
Monarchie, c'est un seul qui gouverne. Oui. Hein, c'est Bonaparte qui se transforme en Napoléon.
Monarchie, quand elle n'est pas royale, elle est suspecte.
Ah, monarchie impériale, ça existe quand même. Là,
quelle horreur.
Il instaure une dynastie.
Quelle horreur. Je suis beaucoup... J'ai deux maîtres en histoire, Jean-Christian Petit-Fils et Jacques Bainville. Alors, il faut que je concilie mes maîtres, vous comprenez ?
Et Charles de Gaulle instaure une monarchie républicaine.
Oui.
Si vous voulez, mais justement, elle est très imparfaite parce qu'il n'a pas réussi, bon bref, à rétablir une véritable monarchie royale. Bref, ça c'est autre chose. On va en venir au sujet vraiment central de votre livre. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais j'ai bien compris que c'était l'élément essentiel. C'est ce brutal transfert, brutal et audacieux, et même plus qu'audacieux, transfert de souveraineté. Ce qui se passe là, nettement, en juin 89. Mais auparavant, peut-être que nos deux amis, soit Julien Tellier, soit Gilles Brochard, veulent vous poser une question sur cette première partie de notre conversation, Jean-Christian Petit-Fils.
Oui, vous, Jean-Christian Petit-Fils, vous parliez dans votre entretien au Figaro Histoire d'un déplacement de souveraineté, d'une souveraineté monarchique, à une souveraineté nationale. Mais est-ce que ce déplacement, in fine, ne se fait pas contre le peuple ? Je dirais contre une souveraineté populaire. Aujourd'hui, on l'entendrait un peu comme ça. Comment l'évaluez-vous ?
Alors, en fait, il y a eu une lutte entre trois types de souveraineté sous la Révolution. La souveraineté monarchique, donc j'en ai parlé, ce roi qui reçoit de Dieu son pouvoir et qui l'exerce au nom du peuple, dans un but du bien commun, en principe. La souveraineté nationale qui va naître les 17 et 20 juin 1789, et là on va en reparler parce que c'est l'événement
c'est
capital.
C'est le cœur, plus que la Bastille.
Et plus que la Bastille, bien sûr, et plus la souveraineté populaire qui, elle, va être prétendument incarnée par des minorités agissantes, des clubs, des sociétés populaires, philosophiques, des associations, etc.
Ça, c'est la convention.
Et il va y avoir, après la chute de la monarchie, une lutte entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Très forte, au point qu'à un moment donné, à la chute de la monarchie, c'est la Commune de Paris qui prétend représenter le peuple tout entier, le peuple de Paris, contre ce qui restait de la Convention, parce que la Convention s'est auto-épurée, il restait plus rien de la
Convention initiale.
D'abord de la législative, évidemment, en 92, et puis après. Alors, pour revenir à la question de la souveraineté, je pense qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a un emploi abusif du mot. Il y a un abus sémantique de la souveraineté. On est là, autant il y a quelques années, tout le monde avait horreur du souverainisme et de la souveraineté.
Je suis bien placé pour le savoir.
Aujourd'hui,
j'étais seul à annoncer ce slogan.
Autant aujourd'hui, tout le monde parle de la souveraineté et on en parle absolument
ça
à tort
de
et
la
à
guimauve,
travers.
De la guimauve,
alors on parle de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté industrielle, de la souveraineté militaire. Tout ça, c'est complètement
absurde.
Sans compter
que chacun parle de sa propre souveraineté.
Voilà. Et puis, notre président de la République qui haïssait les souverainetés et le souverainisme, maintenant nous parle d'une double souveraineté française et européenne. Ouais. Alors, on est là en pleine confusion.
Rectifions.
En pleine confusion. On confond souveraineté et indépendance. Indépendance énergétique, indépendance alimentaire, c'est quelque chose. Par contre, la souveraineté, c'est une notion philosophique, une notion métapolitique et même métaphysique dans certains cas, pour la souveraineté monarchique en tout cas. Tout ça nous remonte à Aristote, à Jean Bodin, bien sûr, à Loiseau aussi, le jurisconsulte, et puis un certain Cardin Lebret, qui est un grand philosophe politique, trop méconnu d'ailleurs, et qui a cette phrase qui est tout à fait intéressante sur la souveraineté. Il le dit, alors il parle de la souveraineté du roi, mais on peut l'étendre à toutes les souverainetés, puisque c'est un concept général. La souveraineté du roi par nature n'est pas plus divisible que qu'un point en géométrie. C'est important, ça. Pas plus divisible qu'un point en géométrie. Donc, quand on nous parle d'une souveraineté française et d'une souveraineté européenne, on est dans une pleine confusion. Oui, oui. Il n'y a qu'une seule souveraineté. Alors, aujourd'hui, il peut y avoir des délégations de souveraineté, mais ces délégations sont en principe réversibles.
Révocables.
Bon, théoriquement, hein, bien sûr. Bon, on ne va pas revenir au franc et supprimer l'euro. Je pense que ça paraît très difficile. Mais il n'empêche que le peuple souverain en aurait le droit, en aurait la possibilité.
Et oui, voilà. La souveraineté,
Sauf si, à partir du moment où la construction européenne, la multiplication de la législation européenne, et puis la pratique, notamment de la Commission européenne, telle qu'elle se fait aujourd'hui, nous conduit à un État fédéral. Bon. Et ça, à partir de ce moment-là, si on fait le saut fédéral, on commence à y aller tout doucement, le saut fédéral, la souveraineté française disparaît.
Elle n'est plus du tout française.
Elle sera uniquement européenne. Mais il ne peut pas y avoir deux souverainetés. Il peut y avoir des délégations de souveraineté, mais la souveraineté, l'article 3 de la Constitution de 1958 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, on pourrait dire français d'ailleurs, qu'il exerce par ses représentants ou la voie du référendum. » La voie du référendum, voilà. Donc, ça reste encore la doxa d'aujourd'hui.
Et on ne peut pas parler, pardon de vous couper, on ne peut pas parler de souveraineté en morceaux de saucisson, la souveraineté alimentaire, la souveraineté militaire, etc. C'est un tout.
Mais c'est abusif, c'est abusif.
Parce qu'en fait, par souveraineté alimentaire, parce
que
vous avez cité, c'est l'indépendance, c'est, voilà, c'est autre chose, ou l'autonomie.
Ce qu'on appelait indépendance nationale,
d'ailleurs. Gardons le mot de souveraineté, Pour
ce point crucial,
voilà. La souveraineté, c'est vraiment cette notion qui nous permet de dire que c'est un pouvoir suprême, exclusif de l'État, d'exercer son autorité, sa puissance sur un territoire donné et de se faire reconnaître son indépendance absolue dans l'ordre international, tout en respectant, bien sûr, les traités et les conventions.
Donc ça veut dire qu'on appuie sa propre légitimité par la souveraineté, en fait. Celui qui dirige, que ce soit le monarque ou le chef d'État, il assoit la souveraineté par sa légitimité.
Voilà.
Quoi.
Et la légitimité assoit la souveraineté réciproquement. C'est un jeu dialectique.
Et par conséquent,
les deux termes ne
la
se
révolution
dissocient pas.
Va procéder à un déplacement gigantesque de la souveraineté. Alors aujourd'hui,
juin 89, racontez-nous ce qui se passe, parce que ces journées-là sont un peu cachées par ce qui précède,
la révolution
et par ce qui suit la Bastille.
La convocation des États généraux a mené donc à la réunion de cette assemblée, qui est une assemblée consultative, avec mandat impératif, c'est-à-dire que le député doit rendre compte à ses mandants. Et non pas un mandat représentatif qui lui permet de se déterminer lui-même et de juger en fonction de la situation. Donc cette assemblée consultative, convoquée par Louis XVI, à la suite de la banqueroute et de la capacité à poursuivre sur le plan financier cette politique, et du refus des corps privilégiés, dont le clergé, à qui on avait demandé 8 millions de dons gratuits, et qui a dit, qui a accordé 1,8 million en 88, 1,8 million en disant « ça vous suffit » et convoquer les États généraux.
Ça, c'est la partie perdue par le roi et Calonne, ce qui fait que vous commencez d'ailleurs la séquence en 1786, c'est-à-dire au moment où l'ultime réforme qui aurait pu faire la révolution pacifiquement, échoue. C'est 86.
87. Le 87, l'Assemblée des notables qui rejette le plan Calonne, qui était un plan de réforme qui tenait la route. Alors, le grand problème tout de même de la monarchie, on en a pas parlé, c'est quand même le problème de la représentation. Il n'y avait pas de représentation de la nation. Ça, c'était un problème. Et il aurait fallu, évidemment, arriver à une représentation de la nation. Le roi ne pouvait pas être le seul organe politique dans la tradition monarchique et de la monarchie absolue. Le seul organe de la politique, du politique, c'est le roi. Les sujets ne sont pas des citoyens. Ils ne peuvent pas participer. Ils participent dans leur corps.
Louis XV aurait pu transformer les États généraux, vieille institution de la vieille monarchie, en une assemblée sinon permanente, du moins convoquée régulièrement, ce qui aurait déjà élargi
c'était
un
l'idée,
peu...
C'était l'idée déjà de Mirabeau, l'idée d'une assemblée nationale, avant même
procédant
le terme...
des États généraux, toujours par trois ordres.
Issus des provinces.
Voilà, alors, c'est ça. Alors, donc, les 17 juin, donc, cette assemblée, après avoir longtemps attendu un plan de réforme proposé... par Necker, qui était absolument incapable de proposer quoi que ce soit.
Le rôle de Necker est très néfaste, en réalité.
Mais je pense aussi, oui.
Je ne dis pas ça parce qu'il est protestant.
Non.
Ah, mais vous savez, je vais vous poser une question sur autre chose.
Bon. Mais Necker a flatté l'aristocratie, et cette aristocratie voulait limiter le pouvoir royal. Et il a été contre, par exemple, le doublement du tiers état aux états généraux. Bon, et c'est Louis XVI qui a été pour. Bon.
Et oui.
Et Marie-Antoinette elle-même était pour. Et elle a dit, c'est tout à fait étonnant cette phrase, je suis la reine du tiers. Marie-Antoinette, vous rendez compte ?
C'est beau.
C'était pas qu'il mange de la brioche, c'est je suis la reine du tiers.
Ah, c'est beau ça. Hein, c'est attesté. Voilà. Enfin, si vous le dites, il n'y a aucune contestation, mais j'ignorais ça.
Et Louis XVI aussi voulait réformer. Bon. Alors, échec donc du plan Necker, qui n'avance pas, qui a fait un discours filandreux au moment de l'ouverture des États généraux. Et puis, on attend. Alors, le roi est très préoccupé par la mort, la maladie, puis la mort du premier dauphin, en juin 89.
Quelques jours plus tôt, oui.
Voilà, et constamment, Bailly, qui est le président du tiers-État, qui est un homme tout à fait honnête, honorable, cherche à parler au roi, cherche à recréer la vieille alliance du roi
et
du peuple contre les barons, que sont les aristocrates.
Et les féodaux, même. Voilà. On peut inclure les cléricatures, dont le clergé, dans les féodalités.
Ah ben, complètement. Parce que vous savez qu'il n'y avait pas un seul évêque roturier sous Louis XVI. Ah, il y en avait sous Louis XIV. Il n'y en avait pas. Donc le haut du corps du clergé, de l'ordre du clergé, c'est un ordre aristocratique et les deux sont associés. Et l'idée d'ailleurs des aristocrates et des ducs et pairs qui voulaient limiter le pouvoir royal, c'est de dire on va convoquer les états généraux et notre alliance avec le clergé fera que, puisqu'il y a trois voix en réalité, in fine, hein, c'est la voix du clergé, la voix de la noblesse et la voix du tiers d'État, et bien l'alliance de la noblesse et du clergé bloque toute réforme possible. Et donc, Louis XVI, on cherche à le joindre et tout. Louis XVI est malheureux, effondré par la mort du dauphin. Il dit, n'est-il pas un père parmi tous ces gens-là? Il est révolté. Et donc, il n'y a pas cette alliance qui aurait pu se faire. Notamment même à partir des députés bretons qui vont constituer le club breton, lequel club breton va se transformer en club des Jacobins. Il y avait une volonté d'entente avec le roi.
De conciliation
mais
avec le roi.
Louis XVI était un homme proche de cette conciliation, mais il a raté le coche. Voilà.
Les circonstances
alors,
sont pas favorisées.
Le 17 juin, devant cette impossibilité de s'entendre, il y avait le problème aussi de la reconnaissance de chaque député des élections, c'est-à-dire la validation des élections. Le tiers-État dit, venez à l'Assemblée de la noblesse, venez avec nous, au clergé, venez avec nous. Peu à peu, un certain nombre de clercs et puis de nobles vont se rallier au tiers-État. Et le 17 juin, eh bien, il va se proclamer Assemblée nationale.
C'est ça le coup de force.
Absolument.
C'est un coup d'État, de cette façon.
Alors, objectivement, oui. Oui. Alors nous sommes aujourd'hui...
La souveraineté, c'est nous, désormais. Voilà. C'est un transfert très brutal de souveraineté.
Très brutal de souveraineté. Et les Anglais...
Insolent, presque. Enfin...
Absolument. Et pour moi, c'est de là que va découler, avec, j'associe ça, l'hubris des députés élu à l'Assemblée nationale, donc aux États généraux, plus ultérieurement à la législative, plus à la Convention, tous se prennent tous pour des maîtres, des légistes, des législateurs. Il y en a un qui est un certain Camus qui dira...
Ah oui, vous le citez dans le...
Je le cite. Nous sommes une convention nationale, donc c'est sous l'Assemblée constituante. Hein. C'est Camus, lors des débats sur la constitution civile du clergé. Nous avons assurément le pouvoir de changer la religion, mais nous ne le ferons pas. Donc ils sont considérés comme supérieurs à un concile œcuménique.
Et oui. Voilà. En mélangeant tout, là, pour le
coup. En mélangeant tout. Nous avons le pouvoir de changer la religion.
On est même plus dans la laïcité, là.
Oui, oui, oui. Donc, il faut dire donc, que ce mouvement est un mouvement unique dans l'histoire de l'humanité. Les Anglais, en 1688, ont fait ce qu'on appelle la Glorious Revolution. Ils ont changé de dynastie et puis fait le Bill of Rights, la loi des droits, et bloqué le pouvoir royal, sans pour autant poser sur la table la question de la métaphysique de la souveraineté. Bon. Et aujourd'hui, vous avez encore, dans la monarchie anglaise, le roi, qui est la fontaine des pouvoirs, Fountain of Powers, qui est avec, dont les sujets sont des, dont les citoyens sont des sujets de sa gracieuse majesté. Bon. Donc vous avez coexistence de pouvoir avec une évolution lente, avec quelques crises bien sûr, vers la démocratie.
Une rupture brutale. Qui suggère même, à propos justement de la fin de la Révolution, c'est même pas la fin du 19e, c'est 1905 alors, à ce moment-là. C'est presque la révocation, non pas simplement de Lénine, non. C'est la révocation de la catholicité, en fait. Et alors, il y a quelque chose de très... Je voulais vous poser une question.
La religion existe toujours.
Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut faire des élucubrations autour de cette date. Moi, j'en fais beaucoup. C'est en octobre, cette assemblée insolente qui devient la législative se croit vraiment tout permis. Enfin, les compare plus ou moins aux bolcheviques, venir à propos des minorités agissantes. Au point de suspendre les vœux Monaco.
Oui.
Ça me paraît hautement symbolique.
C'est la constituante qui fait ça.
Ah, c'est la constituante. Octobre 89, c'est la constituante.
C'est la constituante.
Oui. C'est plus la législative.
Non, la législative, c'est après.
C'est d'abord. Ah. Oui, pardon. C'est d'abord, c'est la première.
C'est voilà, la constituante. C'est la constituante. L'assemblée constituante.
Et qui va au.
Il se déclare constituante le 9 juillet. Donc il y a trois dates. Hein. Oui. 17 juin, 20 juin, serment du jeu de paume. Nous ne nous séparerons pas tant que nous n'aurons pas écrit une constitution. Nous, détenteurs de tous les pouvoirs, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et constituant, tant que nous n'aurons pas écrit une constitution. Mais qui nous ? Nous, c'était des gens qui étaient simplement appelés par le roi, élus dans des systèmes très complexes.
Dans des bourgs.
Oui, et qui n'étaient pas du tout élus de façon définitive, c'était simplement consultés par le roi, dans une assemblée consultative. Et donc, ils se disent, c'est nous, le peuple. Alors tout ça remonte à Sieyès, par exemple, bien sûr, qu'est-ce que le tiers-état ? Cette brochure qui a eu un succès considérable. Oui.
C'est la constituante mais là, qui excède, bien sûr, les pouvoirs.
Elle va même interdire les congrégations.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors,
ça va emmener à la constitution civile du clergé.
Le plus frappant, le plus bouleversant, c'est la suspension et quelques mois plus tard, l'interdiction des ordres monastiques.
Voilà.
Assez protestants aussi, d'ailleurs, je vous le signale.
Oui.
Puisque
oui.
Les protestants refusent, vous voyez, revenir avec mes obsessions, refusent non seulement Marie, non seulement les saints, mais aussi les ordres monastiques. Et c'est très intéressant pour moi, parce que c'est l'abolition de ce qu'il y a de plus central dans la religion chrétienne, c'est-à-dire la transcendance.
Oui.
Parce que c'est le symbole, ces vœux monastiques, d'une interdiction d'une certaine transcendance, parce que si les religions du livre et les monothéismes ont une force, c'est justement en établissant l'existence de deux mondes. Bon, et c'est l'abolition de la transcendance, dont on voit les résultats aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, dans les sociétés contemporaines, elle est complètement abolie, qui marque un véritable saut, non seulement politique, mais métaphysique et religieux. Oui. On sort
mais
la religion. Alors,
mais il y a deux choses. En juillet 90, il y a la constitution civile du clergé et puis l'indépendance de l'Église de France par rapport à Rome aussi.
Oui. Ça, c'est alors, même nouveau. Avant, vous aviez la nationalisation des biens du clergé. C'est quand même pas rien. Comment résoudre le problème financier Talleyrand, on va nationaliser les biens du clergé. Bon. Après, on va indemniser, mais enfin, bon, il n'y a pas eu d'indemnisation.
Parce qu'à l'époque, toutes les églises, toutes les basiliques, toutes les cathédrales, ça appartient à qui?
Ça appartient à l'église, au clergé. Et c'est géré par les conseils de fabrique.
Et d'un seul coup, ils peuvent le garder à condition de prêter serment à la
Révolution. Et puis, ça va permettre d'émettre des assignats en contrepartie de ces biens du clergé. Donc, on commence à construire un système...
financier, comme par hasard.
Financier, et puis...
C'est le début de la financiarisation.
Jamais on aurait imaginé nationaliser les biens du clergé. Plus la constitution civile du clergé, alors elle va très loin, puisque... Elle fait élire les curés et les évêques par l'ensemble de la population, y compris par vos protestants, cher ami.
Je vois bien, oui.
Ou par les athées, et même par les libertins.
Oui,
par les libertins.
Et puis il y a les athées, il y a...
Ils sont électeurs.
Ce sont des événements très importants aussi pour les juifs. Les juifs se réfèrent beaucoup à ces premiers mois de la Révolution dans leur portée religieuse. C'est presque une révolution religieuse d'abord, au fond. Elle est politique et elle est religieuse simultanément.
Au début, elle n'était pas anti-chrétienne, il faut bien le dire.
Oui.
Il n'y avait pas d'hostilité à l'égard de la religion.
Le culte de la raison arrive très vite. Hein.
Mais très vite, évidemment, par des mesures prises, et puis surtout par la condamnation de la constitution civile du clergé par Rome.
Voilà. Alors là, qui est le pape à l'époque?
C'est Pie VI.
Ouais. Donc, il envoie une lettre au roi ou il envoie une lettre
Il fait un bref ou un document pontifical condamnant
la constitution civile.
Et Louis XVI l'a attendu pendant longtemps. Il a été piégé par le clergé assez progressiste, libéral, disons, de son royaume. Les hauts dignitaires, hein, les évêques, lui ont dit qu'il faut accepter. Donc Louis XVI l'a accepté, il était réticent, il l'a accepté.
Mais quand le pape refuse, il est
bouleversé.
Mais Jean-Christophe Petit-Fils, est-ce qu'on peut parler de schisme à cette époque? Parce qu'il y a évidemment les prêtres qui vont être assermentés et ceux qui vont refuser. On va voir le déclenchement de la guerre de Vendée qui va jouer un rôle très important.
Le schisme commence
on
à s'envoler.
On n'emploie ce mot.
C'est
ça. L'aspect religieux est au moins aussi important, au point d'ailleurs que les échos donnés en Europe aux événements de Paris sont reçus presque sur le mode mystique. Enfin, c'est-à-dire que je vous ai demandé de choisir un morceau de musique, Jean-Christian Petit-Fils. Vous avez choisi, c'était presque évident, Beethoven, le premier Beethoven, qui s'enthousiasme. Pour les événements de Paris, et puis pour Bonaparte, un certain temps, il sera déçu ensuite. Et c'est la dimension presque mystique, c'est la portée que ça a, et pareil pour Kant d'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, qui dépasse beaucoup le cadre strictement politique ou constitutionnel.
La Révolution française va devenir une révolution
religieuse.
Universelle. Oui, oui. Et les peuples vont se soulever en chantant la Marseillaise et en brandissant le drapeau tricolore.
Pour des raisons qui excèdent de beaucoup la politique.
Parce qu'il y a la première déclaration des droits de l'homme.
En Hongrie, c'était le drapeau tricolore que les peuples opprimés...
Alors écoutons le début de cette troisième symphonie héroïque, peut-être avec un petit bobino, mon cher Benoît, puisque c'est le choix de Jean-Christian Petit-Fils, et nous poursuivrons, hélas, nous allons déjà manquer de temps. À tout de suite.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Par avance, merci.
là, c'est toujours pareil, nous aimerions rester un peu en musique, mais le temps nous manque cruellement. Julien Tellier, vous vouliez poser une autre question assez centrale, je crois, à Jean-Christian Petit-Fils.
Alors, Jean-Christian Petit-Fils, justement, je crois que vous vous inscrivez dans la pensée du professeur Furet, et comme qui explique que la Révolution française est une matrice du totalitarisme bolchévique. Enfin, je la réduis de beaucoup. J'aimerais savoir comment vous vous placez aujourd'hui face à cela, et notamment à la thèse de Ziv Sternel, qui explique qu'il inclut également le totalitarisme fasciste. Est-ce que vous pensez que la Révolution française est le point de départ de tous les totalitarismes que nous connaîtrons ensuite
aussi
au XXe siècle?
Solzhenitsyn, enfin, c'est une thèse.
C'est quand même un sujet très complexe. Et il faut voir quand même qu'il y a des origines diverses dans ces mouvements totalitaires. Mmh. Le totalitarisme bolchévique s'est inspiré, évidemment, de la Révolution française, dans sa phase en tout cas de la terreur et des minorités agissantes. Pour autant, il avait un autre moteur idéologique. Bon, le fascisme aussi, il y avait un autre moteur idéologique. Le nazisme, encore autre chose. Donc, on ne peut pas tout ramener à une seule matrice.
Enfin, il y a quand même un point commun, c'est l'ablation de la transcendance. Hein.
Oui, bien entendu.
L'aspect religieux est déterminant, à mon avis.
Ben, ce qui était déterminant, c'est aussi...
C'est-à-dire que les hommes se prennent pour des dieux, d'un seul coup. Ils n'ont pas Dieu au-dessus.
Oui,
Et ils sont à ce point puissants qu'ils pensent se transformer au point de créer un homme neuf. C'est aussi un dénominateur commun de
Mais
tous ces mouvements.
Dans le déroulement des événements,
qui finissent en totalitarisme.
Vous avez quelque chose qui fait que la boule de neige ne fait qu'augmenter par suite d'événements qui surviennent. L'événement le plus important, enfin deux événements sont importants. Le premier, c'est le 12 juillet 90. La constitution civile du clergé, la rupture avec l'Église. Et donc, en effet, il y a deux églises, une église schismatique persécutée et puis une église officielle qui essaye de survivre. Surtout, vous avez le 20 avril 92, la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Il n'était pas encore proclamé empereur à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'est là où la mécanique totalitaire s'enclenche parce que on va vouloir piéger le roi. Parce qu'on considère que le roi n'attend qu'une chose, c'est d'être libéré par les ennemis, puisqu'ils deviennent des ennemis, les Autrichiens et puis les Anglais, ultérieurement.
Les ingérences.
Donc, on va, à ce moment-là, poursuivre les ennemis de l'intérieur. Alors. Et donc, les opposants deviennent des ennemis intérieurs. Et qui sont les ennemis d'intérieur? Eh bien, ce sont les prêtres, les aristocrates, les bourgeois réfractaires, etc., etc. Tout ça nous conduit aux lois terroristes, la loi de Prairial, etc.
Et contrairement à ce que l'on pense, c'est pas cet hubris qui déclenche la guerre. C'est les premières victoires militaires, elles sont pas immédiates, mais les premières victoires militaires qui excitent les minorités agissantes à Paris, et plus on gagne à l'étranger, plus on se lance dans la terreur.
Oui, absolument. Alors c'est ça, c'est une très mauvaise lecture qui a été faite par notamment les historiens marxistes, disant que c'était au moment... C'est la théorie des circonstances, c'est-à-dire il a bien fallu lutter contre les ennemis du peuple parce que les frontières étaient menacées ou même envahies.
Mais la guerre était antérieure, c'est l'inverse.
Et en fait, c'est au moment où les armées françaises, après des défaites cinglantes, c'est vrai, commençaient à gagner, que la mise en place du système terroriste
Les dieux ont soif. C'est la soif de sang. Donc, est-ce que vous avez lu, pardon de vous couper encore une fois, mais bon, je suis effrayé que le temps passe si vite. Est-ce que vous avez lu ce livre assez iconoclaste d'un certain Michel Craplé, que je n'ai pas lu encore, mais je l'ai commandé, « L'ivresse de la Révolution, histoire secrète de l'alcool entre 1789 et 1794 ».
Non, je ne l'ai pas lu,
non. Ah ben écoutez, je vous le suggère, je vous le donnerai quand je vous parce que, non, si l'alcool ne finit pas par jouer un grand rôle.
Oui, mais enfin, bon...
Vous savez, les églises ont été transformées en dépôts de vin ou de bière, il y avait des...
Oui, c'est sûr, au moment des massacres de septembre, il y avait de l'alcool qui coulait à flot.
C'est l'époque aussi aussi où il y a le début de la panthéonisation, vous en parlez, oui. De toutes les cérémonies païennes, en fait, païennes oui. entre guillemets,
oui.
Autour des cérémonies funèbres, etc. Alors, enfin, tout ça, c'est un peu en contrepoint de l'Ancien Régime et de ses fêtes.
Tout à fait. Il y a même une idée, la volonté de créer une autre liturgie que la liturgie ouais. catholique, et une voilà. liturgie ouais. révolutionnaire. C'est l'enterrement de Lepelletier de Saint-Fargeau, qui a été assassiné la veille de l'exécution de Louis XVI. Il avait voté l'amour du roi, il est assassiné par
royaliste.
Un royaliste, un personnage qui échappe après aux recherches. La mort de Lazowski aussi, qui était un chef sans culotte. La mort de Marat qui était qui sera panthéonisé, mais qui est la cérémonie de faite en l'honneur de Marat est absolument gigantesque, prodigieuse. Ouais.
Grandiose,
on parcourt tout Paris avec des stations exactement comme si on arrêtait.
C'est une nouvelle religion.
On posait le Saint-Sacrement, eh bien on faisait une station en musique de Chénier, d'André-Marie Chénier, mise en scène
par le peintre David.
Qui a mis en scène toutes ces fêtes, y compris la fête de l'être suprême. Et alors tout ça, c'est en effet, comme vous le disiez, c'est créer un homme nouveau, détaché de la foi chrétienne.
La dimension est religieuse,
et puis
adhérent
à alors pour évidemment Robespierre, l'être suprême, c'est une espèce de dieu républicain, patriote, auquel on doit rendre hommage. Alors que par exemple les gens de la commune comme Chaumette et Bers, il n'y a pas de dieu et ça va donner un lieu à des cérémonies de sacrilèges à Notre-Dame, la déesse raison.
Il y a le tutoiement aussi qui est imposé.
Le tutoiement, les prénoms révolutionnaires, et par exemple j'en parle beaucoup parce que ça permet de déceler les zones de prédominance de la Révolution.
Gilles Brochard a raison de parler du tutoiement. Je suis effrayé en lisant Frédéric Rouvillois, d'apprendre que dans certains estaminets, alors justement, j'en reviens à mon idée, les estaminets commencent à pulluler. Un serveur, un jour, au Procope, s'adresse à un client en le vouvoyant, au nom de la vieille déférence, il est envoyé devant le tribunal révolutionnaire. Parce qu'il refusait de tutoyer, ou inconsciemment.
Oui, le refus.
C'est une contre-étiquette.
On dépasse de
beaucoup ce qu'a été la Révolution anglaise, par exemple. Il y a quelque chose de...
Les changements de nom des localités, qui prennent les noms de Marat, qui prennent les noms
de changement de calendrier, d'ailleurs.
Changement du calendrier, bien sûr. On supprime le dimanche.
Alors, vous avez cité à deux reprises Marat, peut-être que c'est un peu incident, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. J'ai entendu toutes les versions possibles sur Charlotte Corday. Était-elle une révolutionnaire déçue ou une royaliste? Vous avez un mot à dire sur Charlotte Corday?
Non, je ne pense pas.
Parce qu'il y a une réaction royaliste quand même.
Oui, alors c'était la petite pièce de Corneille.
Et voilà.
Elle était
Le vieux monde ne veut pas mourir.
Elle venait de Normandie où s'étaient réfugiés les Girondins. Elle était plutôt sensibilité girondine. Alors les Girondins avaient évolué vers la droite. Et elle était plutôt républicaine, mais elle était horrifiée par les textes incendiaires de Jean-Paul Marat, médecin raté, personnage horrible et appelant au meurtre, à la décapitation de milliers de personnes, à la surenchère révolutionnaire. Donc elle a voulu le tuer. Mais elle n'était pas proprement parlée royaliste. Ou si elle l'était, c'était pour une royauté constitutionnelle.
Oui. Qui était la vraie bonne solution, finalement?
Alors, pour moi, la vraie solution, la bonne solution...
Pour finir,
elle était dans... Elle tenait dans la personnalité d'un homme qui est mort trop tôt, qui est aussi contesté du point de vue de sa personnalité propre, c'est Mirabeau.
C'est Mirabeau. Vous savez que vous allez en venir à Mirabeau.
Mirabeau, c'est... Lui aussi, c'est un homme de la monarchie administrative. Oui. Lui aussi veut moderniser la monarchie, et veut transformer la monarchie en une monarchie démocratique, en une démocratie royale. Pourquoi ?
Ça sera un peu Louis-Philippe.
Ah non. C'est quelque chose de plus populaire. Une union entre le peuple et la monarchie. Bon, alors, Louis-Philippe, c'est plutôt la bourgeoisie, qui soutient, avec le sens.
Bon, peut-être que le projet de Mirbeau n'est pas tout à fait abandonné, il faut le garder
pour
plus tard. Parce que,
en tout cas, le retour à une monarchie, enfin, l'instauration d'une monarchie à l'anglaise, par exemple, n'était pas possible. Parce que les aristocrates, le corps aristocratique, le corps de la noblesse était trop faible par rapport au corps de l'aristocratie anglaise. Trop faible. Donc il a été capable d'abattre le pouvoir royal, mais il n'a pas été capable de contenir le peuple.
Peut-être qu'on l'avait rendu trop faible, ce pouvoir.
Il a été rendu trop faible par.
À cause de Louis XIV.
Peut-être. À cause des guerres de succession d'Espagne.
C'est terrible.
La noblesse
tout ça.
Est morte en très grande
quantité. Alors, nous pourrions parler toute la soirée, toute la nuit. Vous serez réinvité, mon cher Jean-Frédéric. Excusez-moi. Jean-Christian Petit-Fils. Je pense que plusieurs autres. Plusieurs patrons d'émissions, comme on dit sur Radio Courtoisie, auront à cœur de vous recevoir parce que je crois que votre ouvrage va dominer la rentrée, qui n'est pas uniquement une rentrée littéraire, ça sera aussi ça sera une rentrée politique. Et votre livre sur la Révolution tombe vraiment à pic. 28 août, précipitez-vous.
Chez Perrin.
980 pages de lecture 960. Aux éditions Perrin, qui est votre éditeur habituel, Jean-Christian Petit-Fils. Vous nous avez offert un grand privilège de cette avant-première.
C'est vous qui,
oui,
en m'invitant...
J'ai sauté, et je vous remercie beaucoup de nous rejoints. À bientôt, Jean-Christian Petit.
Merci.
Merci encore.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 12 août 2026, de 16h à 17h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€. Ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.